Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par de la publicité ou des sociétés tierces, mais par ses auditeurs sur patreon.com. Aujourd'hui, nous remercions certains d'entre eux, les fantastiques M. Pierre, David Da Silva, Olivier Hermoul, Gabriel K., Pikachu Braise, Le Mouton Noir, Damien Laperle, Emmanuel B., Arnaud Pavon et Sylvain Charrois. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous parle tech, internet et gadgets. On est de retour pour une émission fort sympathique. Je m'appelle Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de Samsung qui a présenté enfin les résultats de son enquête sur les téléphones qui explosent. On va vous parler un petit peu de la Nintendo Switch d'un point de vue un petit peu moins gamer et peut-être un petit peu plus grand public. Et enfin, on va vous parler de Mark Zuckerberg et du fait qu'il sera peut-être candidat à la course à la Maison Blanche, enfin candidat à la présidence américaine à un moment dans les années qui viennent. C'est pas une plaisanterie, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler aussi. Il y a des trucs intéressants à discuter là aussi. Et puis on a plein de news et de rumeurs sur le pardon de Chelsea Manning, sur les résultats de l'enquête sur Tesla, etc., etc. Plein de choses. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand spécialiste Windows Phone et Windows, et bon, un petit peu Android aussi, de chez Frandroid. Comment ça va, Kassim?
Bonjour à tous. Ça va très bien. Je lisais pour la fin de l'enquête Galaxy Note 7, je me disais, et la réponse, et l'explication va vous surprendre, ou pas vraiment.
on va en parler un petit peu, effectivement.
Je remarque que tu m'invites à chaque fois qu'on va parler politique, quoi. Ou alors c'est parce que tu parles politique dans chaque émission.
Bah écoute, il faut avouer qu'avec tout ce qui s'est passé dans les élections américaines, on n'a pas tellement de sujets sur la France aujourd'hui, mais c'est vrai que la politique finalement est influencée et influence l'univers de la tech. Donc ça nous arrive de temps en temps. Bon là, ça va être un petit peu plus léger quand même, hein, la discussion sur Mark Zuckerberg. Et puis aujourd'hui, c'est un jour de Patreon animateur d'un jour, donc on reçoit celui qui est le plus fidèle à ce rendez-vous, notre patriote, l'un de nos patriotes préférés. Je dis ça à tous les patriotes que je rencontre, à savoir Aounchi. Comment ça va, Aounchi?
Passe la crème.
Bon, en fait, c'est vous mes boss, hein, donc je suis là, bonjour monsieur, voulez-vous un petit café, quelque chose? Comment ça va, t'es en forme, Aounchi?
Ça va, en forme, ouais, en forme.
Bon, on a entendu pendant qu'on était en train de préparer l'émission qu'il y avait un jeune homme ou une jeune fille, je ne sais plus, qui pleurait dans la pièce d'à côté. Donc, tu risques d'être interrompu pendant l'émission, c'est ça?
Bah, je suis papa de deux enfants. Et donc, forcément, de temps en temps, ça crie. Donc, ouais, de temps en temps, ça va s'entendre.
Bah, c'est l'avantage qu'on a. J'ai fait une intro un petit peu genre « Ouais, c'est cool, comment allez-vous aujourd'hui pour le Rendez-vous Tech ?» Mais finalement, dans les podcasts, c'est le grand avantage qu'on a, c'est qu'on est vraiment à la cool pour de vrai. On est entre amis, on discute. Et s'il y en a un qui reçoit un paquet qui est livré ou qui a un bébé qui pleure, bah, il n'y a pas de souci. Tu dis « Ah, oh, zut, je dois vous laisser une seconde. » Et puis, on se débrouille. C'est vraiment, franchement, quand je dis que le podcast est mon média préféré, il y a plein de raisons à ça, dont celle-ci. On a l'impression d'être ensemble et c'est vraiment une autre ambiance, c'est certain. Donc bon, trêve de plaisanterie, on a quand même des sujets à couvrir aujourd'hui, à commencer par les résultats de l'enquête sur les explosions de batterie de Galaxy Note 7, dont on s'est tellement moqué pendant les mois qui y ont précédé, et qui au final, bon, les choses restent ce qu'elles ont été, mais je crois que j'ai peut-être été un petit peu, je me suis peut-être un petit peu emballé sur les conséquences de ces explosions. Je vais détailler un petit peu plus tard, mais en gros, je vais résumer, hein, pour une fois, j'ai pas besoin de faire un long laïus pour expliquer la situation. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un défaut de fabrication sur les premières batteries qui étaient trop grandes pour la taille, enfin trop grandes, pas beaucoup, hein, mais il n'empêche, qui étaient souvent trop grandes pour la taille de l'appareil, et ils ont donc identifié le premier problème, ils ont changé de fournisseur de batterie comme ils l'avaient signifié. Et le truc, c'est que leur processus de vérification a été et de validation a été peut-être un petit peu hâtif. Évidemment, ils ne le disent pas comme ça eux-mêmes, mais il a peut-être été un petit peu hâtif. Et donc, le manque de chance, vraiment, le deuxième fournisseur de batterie, celui qui remplaçait les batteries défectueuses, avait lui aussi un défaut qui faisait que les batteries résistaient mal à certains types de chocs et certains types de traitements. Du coup, ce deuxième fournisseur, qui était bien un fournisseur différent, encore une fois d'après leur enquête, a lui aussi causé des problèmes. Comme on le sait, c'est pas c'est un nombre très faible de batteries qui étaient affectées, mais il n'empêche, c'était à la fois un mélange de manque de chance, parce que le deuxième fournisseur avait aussi des soucis, mais peut-être, on imagine, dans l'urgence du remplacement des appareils, enfin de la correction du problème de relations publiques qu'ils avaient, eh ben ils sont allés peut-être un petit peu trop vite, et donc les deuxièmes batteries ont aussi été endommagées, enfin ont aussi posé des problèmes, et ça a mené au résultat qu'on sait. Et à côté de ça, ils ont confirmé qu'on verrait des Galaxy S8, bon ça on s'en doutait, mais aussi des Note 8, donc c'était vraiment les Note 7 qui étaient affectés par ces problèmes de batterie, et ils ont confirmé qu'il y aurait effectivement une nouvelle version de leur appareil, mais qu'on ne la verra pas au Mobile World Congress, ils seront un petit peu décalés dans le temps, donc on imagine, là encore on n'a pas d'informations, mais on imagine que c'est parce qu'ils veulent s'assurer vraiment que ce coup-ci tout est bon et qu'on va pas avoir des téléphones qui explosent dans les nouvelles séries. Alors, à première vue, comme ça, ton impression sur la manière dont ils ont géré l'enquête, la manière dont ils ont présenté les résultats, ils ont fait une vidéo qui explique ça, qui fait une sorte de mea culpa et qui assure tout le monde que maintenant ça n'arrivera plus parce qu'ils ont mis en place tout plein de processus de vérification supplémentaires hyper rigoureux. Toi, Kassim, qui couvre cette industrie régulièrement, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est quand même un événement exceptionnel, cette histoire de Note 7, mais qu'est-ce que ça t'inspire, cette enquête et ce mea culpa?
Je pense qu'après avoir la façon dont ils ont traité le problème, en fait, pendant la crise, ils n'ont pas forcément toujours bien géré, comme tu le disais, ils ont peut-être passé trop rapidement sur le deuxième fournisseur, il y a eu peut-être des problèmes pendant la crise, mais sur cette fin de crise, depuis qu'ils ont arrêté la commercialisation et là, avec les résultats de l'enquête, etc., je trouve que la communication est vraiment de très bonne qualité. Ils ont très bien communiqué, ils ont bien communiqué sur les problèmes, ils ont bien communiqué sur comment ils allaient réparer les problèmes et qu'ils prenaient leur temps, par exemple, pour sortir leur nouveau téléphone, etc., pour s'assurer qu'à l'avenir, les futurs appareils ne devraient pas avoir les mêmes soucis. Et je pense qu'ils vont tout faire pour que ce ne soit pas le cas, parce que sinon, ce serait catastrophique pour leur image. Si jamais le Galaxy S8, par exemple, se retrouve avec un problème de ce type-là, c'est pas possible, quoi.
Oui, là, c'est sûr que l'image de la marque serait endommagée de manière permanente. Là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu en train de récupérer le coup, quoi. Mais...
Alors, je pense qu'ils font ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Cela étant dit, je ne sais pas si ce sera assez pour vraiment, enfin pour. Avec le temps, les gens oublieront peut-être, mais sans doute, comme souvent. Mais par contre, pour l'année 1 là qui vient, je pense que Samsung va encore se prendre des blagues sur dans chaque commentaire de chaque annonce de chaque Samsung sur les batteries, même malgré le mea culpa. Et le souci aussi, ça va être. J'attends de voir pendant combien de temps. Quand tu prends l'avion, une compagnie aérienne arrêtera, pendant combien de temps elle te dira d'éteindre ton smartphone Galaxy Note 7 pour rappeler le problème aux gens, aux passagers en fait de l'avion. C'est là, ce genre de souci.
Ouais, il disait qu'ils avaient rappelé, qu'ils avaient récupéré 95% des appareils.
Oui, évidemment.
Donc, c'est sûr qu'il doit en rester quelques-uns. Je crois que c'est plus ou moins géré le problème, mais.
Dans les aéroports. Juste dans les aéroports, il y a encore des messages sur des trucs bactériologiques de 2005 qui sont encore là ou des problèmes. Non, mais
ouais,
tout ça pour dire
vrai,
que
ouais.
Voilà.
Ça pourrait rester, oui, c'est vrai. Aounchi, toi qui travailles dans l'industrie des télécoms, t'as peut-être un regard différent sur la chose?
Non, j'ai pas forcément un regard si différent que ça.
Pardon, on entend le petit qui crie derrière.
Ouais, non, tu te donnes le micro pile poil au moment où le petit tombe ou je sais pas quoi, il se fait mal.
Non, mais laisse-le tranquille, il va se relever, ils sont solides, ça va, oui.
Non, mais il y a madame qui s'en occupe.
Très bien, c'est gentil.
C'est bon. T'es plus solide qu'un Galaxy Note 7.
Ouais, ça explose pas.
Pardon, excuse-moi, continue.
Non, mais blague à part. Non, en fait, je pense qu'effectivement, il va y avoir des petites blagues là. Presque, ça va durer un petit moment, les petites blagues, pendant peut-être un an, mais ça va se limiter au public technophile, parce qu'on s'en souvient, parce que ça va rester, parce qu'il y a toujours un ou deux trolls qui va sortir une petite blague à un moment donné, rappelant l'épisode de malheureux de Samsung. Après, en termes de communication, ils ont plutôt bien géré. Ils ont eu malheureusement la loi de Murphy. Je change de fournisseur, je vais peut-être aller un peu vite parce que j'ai quand même beaucoup de demandes. Ce téléphone était quand même un très bon téléphone. Il a eu malheureusement un problème de batterie, mais ça reste, enfin en termes de spec, ça reste un très bon téléphone.
C'est vrai que c'était presque leur meilleur, quoi. Ils ont
c'était leur meilleur. Donc il fallait absolument pour Samsung qu'ils vendent ce téléphone.
Ils ont fait ce qu'il fallait,
changer de fournisseur. Ils sont peut-être allés un petit peu trop vite dans les vérifications ou pas. Pas forcément si vite que ça. Et manque de chance, cette deuxième batterie a eu un autre problème qui a fait que téléphone, ils ont raté la vente. Mais après, en termes de communication, je pense qu'il va y avoir une grosse communication, surtout auprès du grand public, pour faire oublier ce problème de Samsung, quoique c'est un petit peu oublié.
Rappelez-vous
de Volkswagen.
Ouais, non, bah déjà, oui, Volkswagen, on commence à oublier, mais je crois qu'ils vont pas trop le rappeler auprès du grand public. Il y a eu leur campagne maintenant, et après, ils vont essayer de tourner la page. Et t'as raison, je crois que pendant un an, enfin, vous l'avez dit tous les deux, pendant un an, on va encore y avoir droit de la part des gens comme nous, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, s'en souviennent. Ça va faire à plus ou moins échelle équivalente le même effet que l'antenna gate de l'iPhone 4, je pense. Et ce dont on va se rappeler, c'est au même titre qu'on répète encore souvent qu'avait répondu Steve Jobs à un client qui lui avait envoyé un email genre tu le tiens pas bien en fait. Le téléphone n'a pas le problème, c'est toi qui le tiens pas bien. Et ça, souvenez-vous-en, you're holding it wrong. On en a parlé pendant un an, c'était marrant machin. Maintenant, bon, il y a que nous qui nous en souvenons. Je pense que tu vas voir quelqu'un dans la rue qui achète un iPhone, tu lui dis « Tu te souviens de l'antenna gay ?» qui va dire « Le quoi ?» Non, pas trop.
Cela dit, là, je vous trouve un peu gentil avec Samsung. Je pense quand même que le grand public, quand tu vas lui présenter un téléphone Samsung à la FNAC, la maman elle va te dire…
C'est pas celui qui explose ?
C'est pas les téléphones qui explosent, ça ?
Non, bien sûr. Je crois qu'on y aura droit pendant encore une année, tu vois.
Il va y avoir une communication de Samsung sur le fait des tests qu'ils ont fait et autres. Parce que le problème du téléphone, tout le monde en a parlé. Enfin, c'est passé aux 20h. L'antenna gate n'est pas passé aux 20h.
Et contrairement à l'antenna gate, ça explose. Mais donc, moi, à mon sens, ils ont fait leur communication maintenant. Et au moment de la sortie, ils ont tout expliqué, machin. Au moment de la sortie, ils vont peut-être dire on a des tests très rigoureux de batterie, mais ils vont pas insister dessus parce qu'ils veulent pas ramener encore, ressasser l'histoire, la faire ressortir, rappeler aux journalistes, machin. Mais bon, au final, moi, ce que je me dis maintenant, c'est que j'ai peut-être été un petit peu hâtif dans mes estimations des conséquences de ce problème, qui était clairement l'un des plus gros problèmes de relations presse, de relations publiques et d'image qu'a eu une société de tech de presque de l'histoire. Mais je pense, moi, ce que je disais, en fait, là où j'ai été hâtif, c'est que je disais, je pense que la marque Galaxy Note est morte parce qu'ils peuvent plus, justement, les gens vont s'en rappeler. Et je crois qu'en fait, la chose qu'ils ont, la manière dont ils ont géré, c'est-à-dire gestion de crise, on arrive, on explique tout, on laisse passer le temps, on arrête de communiquer dans cet esprit un petit peu, dans cette ambiance un petit peu, brouillonne. Et puis, on laisse passer le temps, on fait notre enquête, on explique, et puis on ressort un nouveau téléphone. Et le fait de ressortir un autre tweet, oui, il va peut-être se faire railler un peu, au note 9, au note 10, plus personne n'en parlera. Plus personne. Encore une fois, nous qui nous souvenons encore de l'Antenna Gate, peut-être, mais dans le grand public, ça n'aura plus d'impact. Donc, c'est la force d'une grosse société comme Samsung qui peut prendre 2 milliards de pertes pour une galaxie énorme, enfin, galaxie, pardon, de la plaisanterie, mais une galaxie de produits énormes. Samsung, c'est un conglomérat immense. Ils peuvent gérer et puis ils passent à autre chose, quoi.
Finalement, ce qui va peut-être le plus faire de mal, parce que, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on en parle, mais ce qui va faire le plus de mal finalement à Samsung, ce sera peut-être le scandale dans lequel ils sont impliqués en Corée.
Corruption et la présidence. Oui.
Avec un problème de leadership, du coup, ils vont devoir se faire une réorganisation d'entreprise et tout, donc ça, on verra.
Ouais. Ça, je ne crois pas qu'on en parle beaucoup ici. Hein,
non.
Parce que déjà, on n'en a pas beaucoup parlé et ça a explosé complètement en Corée.
La marque Galaxy Note finalement devrait survivre. J'ai quand même encore du mal à y croire parce que je pense qu'il pourrait très bien sortir un smartphone haut de gamme qui serait le successeur spirituel du Galaxy Note tout en lançant une nouvelle marque,
je crois que là on arrive à des questions de coût parce que construire l'image et la reconnaissance d'une marque comme Galaxy Note, ça coûte beaucoup plus cher que les ventes qu'ils vont perdre certaines personnes diront, tu vois, le truc, c'est qu'ils vont les donner à des journalistes, ils vont faire des tests rigoureux, machin, puis les gens vont commencer à acheter. Quand on va voir qu'ils n'explosent pas, les gens vont se remettre à faire confiance, tu vois. S'ils explosent, ça sera un autre problème, mais bon. Donc voilà, les nouvelles de la Galaxy. On verra ce que ça donne dans quelques mois quand ils présenteront le Note 8, qui a donc... en tout cas, le S8 a été confirmé, puis le Note 8...
Le S8, ce serait au mois d'avril qui serait présenté à un événement à New York. Ouais. Et le Note 8, par contre, c'est à l'automne, en même temps que l'iPhone.
Comme toujours. Parlons, on a parlé donc des Coréens, parlons un petit peu des Japonais, les frères ennemis, avec l'annonce de la Nintendo Switch qui a été faite il y a une dizaine de jours environ. Et on en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu et dans d'autres émissions. Je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler de quoi il s'agit. Donc je vais pas couvrir, on va pas la couvrir de la même manière que on l'a fait dans le rendez-vous jeu, d'une manière très gamer. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question et dont j'aimerais qu'on discute, c'est du potentiel grand public de cette console, parce que c'est vrai que nous, en tant que gamer, on y voit certaines choses, mais Nintendo a toujours cet attrait pour le grand public, pour les enfants, et encore une fois aujourd'hui, la Nintendo Switch a cette image de console qui peut-être convenir à un public un petit peu différent des consoles traditionnelles comme la PlayStation ou la Xbox. Pour résumer, en fait, elle réunit toutes les technologies, toutes les capacités qu'avaient les consoles Nintendo jusqu'à cette Nintendo Switch. Elle a tout ce qui est motion gaming, elle a la possibilité de l'utiliser sur la télé et de l'emmener avec soi dans la chambre ou ailleurs comme la Wii U, mais même de l'emmener à l'extérieur, dans le train, dans le métro, à l'hôtel si on va en voyage, dans l'avion, etc. Et elle a aussi cette possibilité un petit peu intéressante de décrocher les deux manettes, enfin les deux bords de ce qui est en fait une tablette et les deux mini-manettes pour jouer à plusieurs. Pour jouer à deux, chacun en prend une et on peut jouer à différents jeux. Alors le catalogue à la sortie sera clairement un petit peu limité. Mais à terme, on va dire d'ici 6 mois, 9 mois, pour la période de Noël de la fin de l'année, on aura sans doute un catalogue un petit peu meilleur. est-ce que on pourra imaginer que cette console devienne une console, une deuxième console, que les gens qui ne connaissent pas forcément aussi bien les jeux vidéo ou même ceux qui veulent jouer dans d'autres conditions, que ce soit avec un ami en voyage ou sur à côté de la télé quand justement un enfant veut regarder la télé, on prend notre console, on va jouer ailleurs, etc. Finalement, est-ce qu'ils peuvent recapturer une partie du public qui s'était laissé séduire par la Wii? On n'imagine pas que le succès sera aussi phénoménal, parce qu'on se souvient que la Wii s'était vendue à plus de 100 millions d'exemplaires. Là, on va même pas aller dans ce genre de fantasme un petit peu surréaliste, mais à votre sens, peut-être, Kassim, est-ce que il y a dans cette Switch une formule qui pourrait séduire un autre type de joueur?
Pour répondre d'ailleurs, je vais prendre en exemple mon frère en fait, qui est je pense dans la cible un peu recherchée par Nintendo, c'est-à-dire qu'il est papa de deux enfants, et je vois chez eux en fait ils jouent à la Xbox dans le salon. Sinon les enfants ils peuvent être sur l'iPad ou sur la DS. Et donc ça me semble être un peu la cible parfaite pour la Nintendo Switch, vu qu'elle fait à la fois console portable, console de salon et tablette. Donc ça me semble être un peu voilà. Et du coup, dans le concept en lui-même, le concept de l'appareil, je pense que oui, il y aurait un attrait pour les familles, parce qu'en plus c'est Nintendo, et donc tu as une certaine tu sais que tu vas avoir des jeux, tu vas avoir le Mario, tu vas avoir les jeux un peu familiaux, quoi. Et tu sais que ça va être des jeux un peu famille-proof, quoi.
Si tu vois généralement ils font des jeux qui peuvent convenir aux enfants, et puis tu as aussi une application sur mobile qui va te permettre de gérer le temps de jeu des enfants, etc. C'est vrai que c'est un petit peu comme Disney. T'as pas besoin de te prendre la tête de dire, ouais. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que dans ce jeu il y a trop de violence, machin? A priori, Nintendo, tu regardes la classification d'âge, c'est autour de 3 ans souvent, donc ça va, t'es à peu près tranquille, quoi.
Là où, par contre, je vais avoir un peu plus de doutes sur la réussite du produit, peut-être en tout cas dans l'immédiat, je dirais, c'est sur le prix demandé et peut-être l'autonomie, mais surtout le prix demandé par rapport à l'usage, quoi, pour une famille. Mmh. Dans le sens où à 300, donc en France, ça serait à 320 euros à peu près.
Ouais, on est plutôt à 329, c'est vrai qu'il y a eu des offres un peu moins chères, mais...
Et ça, à ce prix-là, en fait, c'est tout simplement le double de la DS, sachant que chacun des enfants...
La 3DS,
oui. Oui, ou de la 3DS, chacun des enfants avait sa... Sachant que chacun des enfants avait sa 3DS, quoi. Là, ce serait plutôt une console à se partager, sauf s'il en faut un par enfant, et à ce moment-là, ça devient très très cher, cette histoire.
Ouais, ils peuvent décrocher les manettes et jouer à deux ensemble. Donc, mais oui, je sais comment sont les enfants.
Ouais, oui, mais non. Sauf que non.
Et en plus, elle est effectivement à 320, 330 euros. Et ça, c'est sans jeu. Il faut rajouter le prix d'un jeu qui coûte assez cher. On est à 60-70 euros souvent. Et en plus, enfin, souvenons-nous que la Wii avait un jeu inclus et coûtait seulement 250 euros. Je me retourne là, du coup vers... Ouais, oui, pardon, tu veux
juste
finir?
On tombe dans le gamme de prix du coup de l'iPad, en fait. Et du coup, c'est plutôt, en fait... Enfin, on commence à frôler la gamme de prix de l'iPad, en fait. Or, on ne va pas acheter un iPad pour un enfant, bien sûr. Enfin, a priori, on ne va probablement pas acheter un iPad pour un enfant, mais par contre, on peut s'acheter un nouvel iPad pour la famille, en fait, qu'on va aussi pouvoir prêter du coup plus facilement aux enfants, puis on va du coup pouvoir mettre à jour l'appareil. Du coup, j'ai un peu du mal. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont être un peu tout le temps entre deux eaux, entre deux trucs. Donc, j'ai un peu du mal à voir le succès dans les médias. Mais peut-être après, avec une baisse de prix ou une console peut-être plus petite ou un modèle midi ou peut-être un modèle concurrent, enfin, qui viendra en remplacement de la 3DS, tu vois, là peut-être plus, ou de la 2DS même plutôt.
Moi, je crois que même sans aller jusque-là, c'est sûr que si on voit à 2, 3, 4 ans, on peut imaginer d'autres versions de la machine. On peut imaginer aussi à Noël des packs avec un jeu à, on va dire, allez, 300 euros dans 9 mois. Aounchi, toi, est-ce que c'est un truc qui pourrait, que tu pourrais voir intéressé?
Même pas qu'il pourrait, je suis à 80% sûr de l'acheter. Pas à Day One, mais certainement à Noël. Voilà.
Enfin, mais toi, c'est parce que t'es un gamer et que tu veux la console Nintendo,
non,
ou c'est
pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Je suis effectivement gamer, mais je suis PC.
moi.
D'accord.
J'ai pas de console. Pour vous donner un titre d'exemple, pour jouer à Halo, parce que j'aime beaucoup Halo, j'ai emprunté la Xbox de mon frère.
D'accord.
Voilà. Et comme jeu de console, j'ai exclusivement les Halo. Donc,
d'accord.
Je ne joue pas sur console. Mais pour
alors pourquoi la Switch,
aller dans le sens de Kassim, pourquoi je vais aller chercher la Switch ? Parce que Nintendo. Parce que donc mon enfant qui est le qui j'en ai un qui commence à avoir 6 ans, donc je vais pouvoir tranquillement lui mettre sur les jeux. Avant je préférais pas pour d'autres raisons, mais donc là je vais pouvoir lui mettre une manette dans les jeux. Mais quand on met quelqu'un dans les jeux, faut faire attention à ce qu'on lui met devant. Enfin je vais pas être à 100% en permanence derrière mon enfant. Enfin au début oui pour l'aider, mais après il va jouer tout seul. Donc j'ai besoin derrière que le jeu il va pas lancer par inadvertance des jeux pas pour son âge, violents ou même dans le gameplay qui va pas le faire. Donc de ce côté-là, on est safe du côté du côté Nintendo, plutôt mignon. C'est des jeux quand même intéressants. Le côté graphisme, bon, on s'en fiche, il commence à jouer, donc on s'en fiche un petit peu. Mais
tu veux dire
voilà,
la puissance de la console qui est quand
moi,
même moindre par rapport aux consoles concurrentes. Effectivement, peut-être que pour un enfant, c'est moins gênant.
C'est moins gênant.
Et puis ça reste des jeux Nintendo que tout le monde peut apprécier.
Ça.
Peut-être que toi justement tu vas apprécier les Mario Kart et les Zelda et les Mario Odyssey qui seront disponibles d'ici quelques mois, quoi.
Exactement. Après, pourquoi préférer une Switch à un iPad ? L'iPad c'est connecté sur Internet. L'iPad, si tu veux pas le connecter sur Internet, il n'y a pas grand chose à faire. Enfin, faut couper le Wi-Fi, mais il faut y penser.
Non, et puis même la plupart des jeux doivent se connecter sur Internet.
Et les jeux en ont besoin. Donc, ça veut dire que tu mets dans les mains de ton enfant un appareil qui a une connexion Internet en permanence. Quand ils sont jeunes, c'est pas forcément une bonne idée.
Ouais, peut-être, donc, effectivement.
Moi, je vais certainement l'acheter, mais plus tard.
Bon, disons que tout ce qu'on a dit là, on aurait peut-être pu le dire de la Nintendo Wii U. Et peut-être, mais la différence entre la Switch et la Wii U, c'est que la Switch a été mieux expliquée au public, et je pense que tout le monde, et bien sûr encore plus à Noël, une fois qu'il y aura un plus gros push marketing, tout le monde comprend sur la Wii U, comme on s'en souvient tous, on n'avait pas compris, enfin nous oui, mais le grand public n'avait pas compris, il pensait que c'était un accessoire pour la Wii, et que c'était une tablette, mais en fait non, il fallait racheter une console, etc., racheter des jeux, c'était pas très clair. Donc là, je crois que peut-être ça pourrait intéresser les gens.
Et la Switch, en plus, pour le côté portable, pourrait plus facilement plaire aux enfants, le fait d'avoir l'écran. Enfin, oui, on pouvait jouer sur la mablette de la Wii U, mais si tu veux, quand tes enfants étaient en vacances, tu pouvais pas l'emmener en vacances, quoi.
C'est vrai, tu pouvais pas l'emmener en vacances. Et puis l'écran était pas super beau, elle était plus volumineuse, ça faisait plastique. Ouais. Là, effectivement, on a peut-être un coup à jouer. Moi, je reste convaincu que le lancement n'est pas bon, mais comme on en avait, ce qu'on avait conclu dans le rendez-vous de jeu, en fait, c'est que c'est un soft launch. C'est vraiment une période de lancement où on a beaucoup de soucis, qu'il fallait la lancer et qu'ils vont en vendre les 2 millions qu'ils ont annoncé mettre en vente, et puis voilà. Et après, vraiment, pour les gens qui sont pas absolument convaincus d'en vouloir une tout de suite, on aura d'ici 9 mois un catalogue un peu plus étoffé, et puis des packs, et puis le push marketing. Peut-être que ça pourra prendre. Peut-être
côté
que
gamer,
je me suis beaucoup calmé sur mon jugement, mon jugement très dur de la Nintendo Switch. Je crois qu'à d'ici à un an, ça pourrait prendre. Je ne sais pas si ça va prendre, mais
J'aimerais qu'ils précisent leur feuille de route, surtout de jeu, en fait, plus clairement, enfin plus vraiment.
Bon, on a eu des indications selon lesquelles ils ont effectivement une grosse série de jeux qui pourraient arriver. On a eu on s'écarte de la question grand public, mais effectivement il y a eu des sujets un peu, enfin des intentions un peu rassurantes. Mais pardon, Aounchi, tu voulais dire un truc?
Moi, cette Switch, comme ça, on me la présente, on joue un peu les specs. Je me dis, en fait, c'est juste, ils le disent pas, mais pour moi, c'est une tablette Android qui dit pas son nom. On est sur quelque chose
de
Nvidia. Et je reste persuadé que l'OS, ils l'ont caché, mais c'est un Android.
Bah, ça, tu sais, on avait eu beaucoup de rumeurs sur ce sujet, qu'ils avaient utilisé Android et qu'ils faisaient un fork Android. Donc, on n'en est pas certain, mais c'est très probable, oui, avec le processeur Tegra.
Ce qui veut dire, c'est que, oui, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que potentiellement, tous les jeux, tous les casual games, jeux ou autres, qui sont sur Android, peuvent être portés sur Switch extrêmement facilement.
Oui, tout à fait, oui, ça, c'est certain.
En tout cas, ils auraient tort de s'en priver si jamais ils peuvent se le permettre de l'annoncer ça, enfin pour draguer les développeurs mobiles.
Dont le dernier Mario.
Je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin de le mettre en avant aujourd'hui. On verra les jeux qui sortent. Je pense qu'ils veulent pas, qu'ils veulent éviter que ça soit justement ah bah c'est une tablette Android de Nintendo. Il y aura plein, tu vois, de mélanger les genres. Mais oui, je pense que la facilité qu'ils n'avaient pas avec la Wii U, qui avait une architecture assez différente des autres consoles, bah là effectivement ils ont une architecture différente des autres consoles PlayStation et Xbox. Mais par contre, ils ont une architecture assez similaire à celle des téléphones et des tablettes Android. Enfin, c'est des appareils ARM en général, et donc ils peuvent profiter de cette passerelle aussi. Mais je pense qu'effectivement, ils vont pas le mettre en avant. Ça sera simplement une facilité pour les développeurs, quoi. Donc bon, assez intéressante au final cette Nintendo Switch de ce point de vue. Des gros soucis et des grosses déceptions pour les gamers que je suis. J'allais dire que nous sommes, mais tout le monde ne partage pas mon avis. Comme on en a parlé dans le rendez-vous jeu, mais peut-être à plus long terme, une possibilité de voir la chose se passer un petit peu mieux pour la Wii U. Moi, c'est tout le bien que je lui souhaite, en tout cas. Troisième gros sujet dont nous voulions parler, la possible présidence de Mark Zuckerberg. Alors, on en a entendu parler à droite et à gauche. Vous en avez peut-être vu des références dans la presse française, même, c'est arrivé jusqu'à chez nous. Décortiquons un petit peu tout ça, essayons de vous expliquer pourquoi ces rumeurs ont commencé à sortir. C'est finalement possiblement des fantasmes qui n'ont aucune base dans la réalité, mais il y a quand même certains éléments qui nous laisse penser que peut-être ça pourrait arriver. Alors d'abord, son challenge de l'année, vous savez que chaque année Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne le sauraient pas bien sûr, c'est le président de Facebook, hein, le fondateur et président de Facebook, donc il fait chaque année un challenge différent, un challenge assez intéressant, surprenant. Il avait voulu apprendre le chinois une année, il avait voulu ne manger que des choses qu'il avait lui-même récoltées ou tuées pendant une année, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose de surprenant, mais qui peut vous amener des choses finalement. Là, il a son challenge, c'est de parler et de rencontrer des gens dans tous les États des États-Unis. Et il a déjà visité plusieurs États, donc là il disait « il me reste une trentaine d'États à visiter, j'aimerais y aller dans l'année, dans tous les États que je n'ai pas encore visités, et rencontrer vraiment les gens et leur parler ». Donc, ça ressemble déjà un petit peu à une
campagne.
Comment dire ? Une campagne, oui, une intention de campagne comme ça, mais… Et plusieurs personnes ont fait la remarque, évidemment avec cette idée que aux États-Unis, on a vraiment n'importe qui peut devenir président. Évidemment, c'est avec l'élection de Donald Trump que ça a été prouvé de manière assez éclatante. Et donc, il y a 3 ans, même pas, il y a 1 an, si on avait dit Mark Zuckerberg qui se présente, bah ça aurait été un petit peu ridicule. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus crédible, on va dire. Mais ça n'est pas la seule chose qui a provoqué cette rumeur. Il y a aussi différentes choses qu'il a dit ces derniers mois et ces dernières années qu'il a fait, qui nous laisse penser qu'il y a la possibilité, peut-être pas qu'il devienne président ou qu'il essaye de faire une campagne, mais au moins qu'il se dise qu'il veuille une position de politicien, une position dans le service public. L'une des choses qu'il a dit, qui était assez surprenante, c'est dans un commentaire sur ses vœux pour l'année, il a dit qu'il n'était plus athée. Il était de comment dire de on savait qu'il était athée, il en avait parlé, et il a souhaité une bonne année ou un bon Noël, je sais plus, à ses followers. Et quelqu'un lui a posé la question, il a dit non, je suis revenu un petit peu sur ma réflexion, je pense que la religion a une place importante dans la vie des gens et dans la société. Il a pas dit je suis, parce que oui. Lui il est juif si je ne m'abuse, il a pas dit je suis, je retourne à la synagogue tous les jours ou toutes les semaines, mais il a quand même, il est revenu un petit peu là-dessus et on sait bien c'est qu'aux États-Unis...
Ouais, c'est le plus significatif en fait pour moi ça.
Ouais, ouais, parce que.
Je pense que le plus significatif.
Ouais, aux États-Unis, on ne peut pas espérer devenir président si on ne fait pas état de sa spiritualité. Ça, c'est certain. Il y a la chose a trop d'importance aux États-Unis pour ça. Et il a également, il a été révélé que à l'occasion d'un procès, je vous avoue que je sais plus duquel il s'agit, mais il a été révélé au cours d'un procès que la structure de la société permettait à Zuckerberg de devenir, de travailler dans le service public. Et où il y a quelqu'un qui renifle là. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Unchi? D'accord. oui, donc tout va bien. Donc ce que je disais, c'est qu'il pourrait devenir agent du service public, et dans ce sens j'inclus tout, hein, y compris le président, et garder le contrôle de sa société grâce à la manière dont est structurée la société aujourd'hui. Pendant 2 ans aujourd'hui, donc le président est président pendant 4 ans, donc c'est pas tout à fait adapté, mais on imagine qu'il pourrait peut-être essayer de faire autre chose. Donc là, c'est la partie structure et indication qu'on a pu récupérer. Peut-être qu'il sent une responsabilité avec l'élection de Donald Trump. Il se dit, ça correspond pas à l'idée que je me fais du pays. Peut-être qu'il se dit, moi, j'ai une responsabilité en tant que figure publique. Il a beaucoup de pouvoir. Il a une image qui est certainement aussi positive, voire plus positive que n'importe lequel des politiciens de son bord. Lui, il est démocrate, hein, a priori. Et il se dit peut-être que je dois y aller. Alors, et du coup, ça pose 2 questions hyper importantes, enfin, une même plus que l'autre. Est-ce que ça serait envisageable, pourquoi pas en 2020, 2024, de voir une candidature de Zuckerberg? Et l'autre question qui s'enchaîne immédiatement, est-ce qu'il est envisageable d'avoir quelqu'un qui a une telle importance, quelqu'un qui dirige une société qui a une telle importance dans la manière dont nous communiquons et dans la manière dont les médias diffusent leurs messages, essayer de devenir président? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts immense là-dedans? Peut-être, encore une fois, je commence par Kassim. Quel est ton avis sur la chose?
Quand j'ai commencé à lire le sujet, du coup, sur Mark Zuckerberg, peut-il être candidat, etc., au début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie encore?
c'est vraiment encore la réaction qu'on a au début.
Ouais. Un fantasme de la Silicon Valley post-Donald Trump.
C'est ça, oui.
Alors, du coup, les arguments, en tout cas, du coup, oui, ils y sont. Sur son statut dans la société, sur son statut dans l'entreprise Facebook... sur la religion, etc. Donc effectivement, il y a ce tour des États-Unis, un peu de chaque État, qui ressemble vraiment à une campagne un peu, ou à une pré-campagne où tu vas à la rencontre des vrais gens pour faire ton programme.
Ouais, et après, tu peux dire, quand j'étais dans l'Arkansas, j'ai rencontré Machine qui m'a dit qu'elle avait vraiment des problèmes avec ceci.
Cette formidable paysanne qui a élevé, qui n'a jamais existé, mais dont je me sers comme exemple. Et donc oui, donc il y a beaucoup d'arguments en tout cas qui vont dans le sens d'une candidature. En plus, c'est vrai que s'il se présentait pour le camp démocrate, enfin s'il se présentait pour la primaire du camp démocrate, ça permettrait au camp démocrate d'éviter d'avoir à nouveau un candidat du système face à un candidat hors système, dans le sens, enfin c'est un peu ce qui potentiellement les a défavorisés dans la dernière élection, quoi, en tout cas. Un des trucs qui a bien marché pour Trump, c'est son côté hors système.
Anti-système, c'est sûr, oui.
Je suis milliardaire anti-système, ok. mais en tout cas, hors système politique et hors figure habituelle de la vie politique américaine. Donc là, ce serait un argument de poids, en fait, pour les démocrates. Après, sur le conflit d'intérêts, c'est vrai que c'est un peu tout le sujet. Bon, je vais pas spoiler la dernière saison de House of Cards, mais c'est un sujet super important et pour moi, oui, il y aurait conflit d'intérêts immédiat dans le sens où c'est pas tant qu'il est à la tête d'une entreprise puissante en soi, c'est le fait que Facebook c'est un média et c'est le média. Enfin, on l'a bien vu d'ailleurs à cette élection avec les fake news en fait et la façon dont les gens s'informent. Tu peux pas imaginer, même si, enfin, il faudrait qu'il quitte Facebook en fait pour.
Ouais,
pour
ça serait compliqué. En tout cas, pour une. Enfin oui, mais à vrai dire, n'importe quel poste d'importance, ça me paraît très compliqué de le garder.
Sans avoir l'impression que t'es influencé, qu'il l'ait fait ou non. Enfin, ça, c'est tu c'est Facebook est un moyen
de conflit d'intérêt. Donc voilà, oui, c'est
voilà. Est un moyen d'influence et tu peux pas voilà, il y a plus d'un milliard d'utilisateurs, enfin je sais plus, 1,6 milliard d'utilisateurs actifs sur Facebook par mois, bon pas que des Américains, mais du coup enfin le conflit d'intérêts serait évident.
En même temps, Google, tu sais, il y a eu des,
c'est comme s'il y avait le patron de Google qui se présentait à l'élection présidentielle.
Ça serait
Google,
exactement le même problème.
Sur la page de Google, il y a un lien vers la campagne. Non.
C'est exactement le même problème. Mais tu sais, en même temps, il y a des choses aussi surprenantes qui se sont passées avec l'élection de Donald Trump. Les conflits d'intérêts qui existent avec ses sociétés, par exemple, sont loin d'être réglés. Il a confié la direction des sociétés à ses enfants, ce qui ne résout pas le conflit d'intérêts. Enfin,
ouais, mais ça, c'est encore ça.
Mais on est d'accord.
Alors, c'est un conflit d'intérêts différent. Dans le cas de Trump, c'est un conflit d'intérêts qui avantage ses sociétés probablement sur le marché par des lois que le gouvernement pourrait passer. C'est ce type de conflit d'intérêts-là dont on parle. Alors que dans le cas de Zuckerberg, ce serait un conflit d'intérêts de type « je pourrais me servir potentiellement de mon entreprise pour influencer la population à voter pour moi, en fait. »
Oui, effectivement, c'est encore plus... Oui, tu as raison.
Il y a une nuance. Enfin, pour moi, il y a une nuance qui fait que c'est différent. C'est pas pour autant que le conflit d'intérêt de Trump est beaucoup mieux. Hein.
Non, mais je suis d'accord. T'as raison, effectivement. Peut-être qu'il... Enfin, il faudrait, dans un cadre comme celui-là, à mon sens, il faudrait qu'il s'isole de la société, qu'il... Enfin, ça serait compliqué, c'est sûr. Mais...
Et ça serait compliqué que même si lui s'isolait, en fait, ce serait compliqué que les employés en place, enfin, les dirigeants en place... soit pas de même en conflit d'intérêt en fait. Enfin, tu vois.
Bien sûr.
Très compliqué.
Il faudrait qu'il quitte son poste, qu'il vende ses.
Ouais, enfin, non, c'est ça quoi.
Oui, ça serait très compliqué. Mais bon, qui sait, qui sait. Si on regarde un petit peu en France, moi, quand j'ai essayé de penser à qui ça pourrait être équivaudre. un truc comme ça, évidemment, on a personne qui soit aussi influent de cette manière. Mais on a un patron d'industrie tech qui est très actif au niveau économique et dans d'autres domaines. Évidemment, on pense, enfin moi en tout cas, j'ai pensé à Xavier Niel. Aounchi, est-ce que tu pourrais imaginer un truc équivalent, mais c'est peut-être un petit peu plus classique que celle de Zuckerberg, mais quelles sont tes impressions sur tout ça?
Alors, mon impression de tout ça est assez simple. Je pense que Trump a juste mis une claque derrière la tête de tout le monde en disant « mais quelqu'un qui est businessman peut devenir président de la première puissance mondiale ». Et je pense que ça, effectivement, c'est parti sur Zuckerberg parce que c'est la personne en vogue, mais le fait d'avoir, de dire un businessman peut devenir président, c'est...
Ta femme est en train d'engueuler ton fils, j'ai l'impression, là.
Non, c'est pas mon fils, c'est ma fille. Mon fils est d'accord. Donc lui, il ne se fera pas engueuler.
D'accord.
Du moins, pas par ma femme. Donc je disais le fait que qu'un businessman et c'est pas n'importe qui, enfin il est juste milliardaire, il fait partie des Trump n'est pas
c'est un petit peu gênant là pour le coup, j'ai dit qu'on
alors,
était
ça, pas de problème, je vous laisse, on reprendra plus tard.
D'accord, désolé Aounchi, mais c'est vrai que là mais oui, il y a cet aspect businessman, Aounchi a tout à fait raison. Il y a aux États-Unis peut-être plus que chez nous la légitimité de quelqu'un qui a réussi dans le monde de l'entreprise qui est importante. Et bon, avec Trump, il y a tout un tas d'autres soucis. Avec Zuckerberg, il y a quand même, c'est quelqu'un qui a une réussite éclatante et qui a eu une réactivité et une intelligence dans la gestion de son entreprise qui est sans commune mesure. Alors, en bien ou en mal, selon ce qu'on pense de Facebook, mais ça pourrait être un élément qu'il pourrait faire valoir comme point extrêmement positif. Et encore plus, je pense que n'importe où, y compris en France, mais peut-être encore plus aux États-Unis, quoi.
Bah, en France, on aurait le. Je pense qu'il y aurait le souci. En fait, je vois deux façons de. Une façon positive et une façon négative. Pour la façon positive, oui, ça pourrait. On pourrait imaginer un entrepreneur à succès comme Xavier Niel. Tu aurais pu aussi citer comme patron d'un grand média très populaire en France. Tu aurais pu citer Vincent Bolloré, par exemple.
Non, mais c'est vrai. Et ça poserait le même problème de conflit d'intérêts. Oui. Je ne sais pas si Bolloré aurait la même popularité, effectivement.
Ce serait plutôt l'équivalent de Trump, je pense. Oui. Mais bon, bref. Non, mais.
Mais comme quoi.
Mais par contre, il y aurait donc la possibilité de. Je pense que ce qui marcherait en termes. Bon, il y aurait le conflit d'intérêts, évidemment, mais ce qui marcherait bien en termes de popularité, c'est le côté. Hors système politique, il y a un truc dont j'ai l'impression les dernières élections montrent, que ce soit en France, ailleurs, au Royaume-Uni, avec le, peut-être même avec le Brexit, je ne sais pas, c'est le côté hors système et le côté une certaine lassitude des politiques qui en ont fait leur vie professionnelle, en fait.
Ah, mais c'est sûr. Quand on parle de Niel, d'ailleurs, il y a un petit peu cet aspect rebelle qui viendrait peut-être séduire certaines personnes.
Et le côté, il a vraiment travaillé. Enfin, c'est pas bien de dire ça comme ça, mais bon, il y a le côté, en fait, il a eu un emploi dans le privé et donc il connaît les facettes de l'emploi
dans l'entreprise.
Privé.
Non, non, mais t'as raison. Je crois que on a des gestionnaires. C'est vrai qu'on le dit souvent. On a en France une armée de politiciens qui sortent tous de l'ENA, à peu de choses près, et qui sont toujours dans leur milieu. Et c'est l'un des reproches qu'on peut leur faire pour les qualités que ça amène de gestion qui sont indéniables. L'un des reproches qu'on peut leur faire, c'est effectivement qu'ils ont peut-être moins d'expérience dans le monde de l'entreprise. Mais au-delà de ça, effectivement, le fait de simplement dire « on ne vient pas de ce même milieu », je pense que ça pourrait être un atout en France aussi, et ça pourrait être un atout pour Zuckerberg, comme ça a été un atout pour Donald Trump. Alors, qui a un rejet clair du milieu politicien partout dans le monde. Hein. C'était le cas au Brexit, c'est exactement comme ça que ça a fonctionné également. Et pour ceux qui ont écouté le Phileas Club sur la Thaïlande qui est sorti il y a quelques semaines, c'est comme ça que ça s'est passé également en Thaïlande il n'y a pas si longtemps.
Mais le côté négatif, par contre, de le revers de la médaille, un peu que je verrais en France beaucoup plus qu'aux États-Unis en tout cas. C'est le côté grand patron qui veut venir et qui me semblerait dans le cas de encore dans le cas de Xavier Niel, ça pourrait marcher parce qu'il s'est fait sa fortune.
Mais c'est
lui-même,
ça, il est tellement atypique, Xavier Niel, et puis il fait fonctionner Free d'une manière tellement différente, et puis il a amené il a cassé le marché des télécoms mobiles. Et il a amené du pouvoir d'achat à tous les Français. C'est, je pense que le monde entier se souvient encore de l'époque où tous les forfaits étaient à 60 euros et que du jour au lendemain, ils sont passés à 20. Donc, il a créé cette école 42 qui montre qu'il a on est en train de faire l'apologie de Xavier Niel. Moi, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une certaine sympathie. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il pourrait être un candidat atypique qui pourrait se gagner des soutiens dans la population.
Non, mais par exemple, je vois la réaction de la candidature de Emmanuel Macron qui lui aussi vient du privé. Mais bon, il y a le côté, enfin, c'est pas exactement la même carrière et pas le même profil.
C'est mais, ça devient compliqué ensuite de comparer de un à un. Mais pour revenir à Zuckerberg, effectivement, tout ça pour dire que il n'est pas tellement incongru qu'il pourrait à terme se présenter dans pour une candidature de président ou d'autres choses, mais le gros souci que ça poserait, c'est les problèmes de conflit d'intérêts, c'est évident, et ça pourrait même l'arrêter. Il y a un autre truc qui était intéressant à noter, c'est l'un des articles que j'avais trouvé dans Vanity Fair, c'était pas celui de Vanity Fair, je sais plus où il était, je suis désolé, je retrouve plus l'article en question, mais c'était un article qui pointait du doigt le fait que, finalement, Zuckerberg, il n'a pas vraiment besoin de devenir président ou de passer dans la sphère publique pour influencer le monde. L'une des sociétés les plus importantes au monde, c'est Facebook. Il a sa fondation avec laquelle il peut faire énormément de choses, un petit peu comme Bill Gates. S'il veut, parce que on imagine que dans la position dans laquelle il est, s'il va essayer de devenir président, ça va sans doute et possiblement être parce qu'il veut du pouvoir, et ça c'est le cas de, j'imagine, n'importe quelle personne qui veut essayer d'accéder à ce type de position, mais aussi pour essayer d'influencer le monde, on l'espère, dans le bon sens, de faire du bien. Et c'est bien dans Vanity Fair, merci Kassim de me le confirmer, c'était bien dans Vanity Fair qu'il disait la chose. Mais s'il veut vraiment faire le bien, en gros, hein, on va dire les choses comme ça, il n'a pas besoin de devenir président. Donc c'est l'un des points de vue un petit peu divergents, on va dire, qui m'avait marqué, quoi. Bon, bah je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. On peut donc juste une chose, on parlait de politique et de marketing. Facebook va investir dans la station F de la station incubateur de notamment Xavier Niel. Ils vont avoir je sais plus combien, 80 bureaux à la station F, qui est donc l'incubateur de start-up. Et à mon sens, c'est assez malin de leur part, parce que ça leur permet de s'investir un petit peu dans la vie de la communauté locale à un moment où on reproche énormément à Facebook et à d'autres sociétés, bien sûr, de rester dans leur château américain ou ailleurs en Europe et de profiter des marchés qu'ils exploitent, en France notamment. Je pense qu'on va voir de plus en plus d'initiatives de ce type-là, où les sociétés vont essayer, les sociétés comme Facebook, Apple, Google, etc., vont essayer de s'investir un petit peu plus au niveau local pour tisser des relations avec les autorités locales et ensuite pouvoir faire valoir la chose à terme et essayer de montrer qu'ils sont pas juste là comme des vampires à sucer toutes les ressources qu'ils peuvent des pays dans lesquels ils sont présents. Donc je trouvais intéressant de le noter. Bon, bah écoutez, on va passer à nos news et nos rumeurs, mais avant ça, comme toujours, on va prendre le temps de remercier encore une fois des patriotes qui soutiennent l'émission. Comme je le dis au début de l'enregistrement, l'émission n'est pas soutenue par des société ou par de la publicité, mais bien par vous, par les auditeurs qui choisissent de contribuer, et ils vont sur patreon.com, comme vous le savez, et ils décident de donner une certaine somme à chaque épisode publié, une somme qui est à peu près libre, hein. Vous pouvez choisir de donner 1, 2, 3, 4 dollars ou un petit peu plus. Vous pouvez choisir d'arrêter absolument quand vous voulez, donc c'est facile, c'est rapide, c'est pratique, et en plus ça fait du bien et ça rend fier tous les gens qui sont impliqués dans ce processus, des auditeurs aux producteurs et à moi finalement. Et certains d'entre vous vont être remerciés aujourd'hui. Je parle de Laurent Prado, d'Alexis Rioux, de Totor65, de Camille Odoul, d'Arthur Blondel, de Giuseppe Mirata, Giuseppe, je ne sais pas si je prononce bien les choses, de David Muller, de Maxime Cespin, de Urban Gun et de Spyger. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com. Et bien sûr, merci à tous ceux qui écoutent. C'est ce que je dis à la fin de l'émission. Mais oui, vraiment, un grand, grand merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, parce que vous le savez, ça nous permet de fonctionner absolument sans aucun lien avec toutes les sociétés que nous couvrons. Donc, c'est une indépendance qui est précieuse et qu'on peut obtenir grâce à vous. On a maintenant une série de news et de rumeurs qu'on va couvrir. Oui, pardon.
Du coup, si tu te lançais en politique, il y aurait pas de conflit d'intérêt.
Ça dépend. Oui. Si je continue à faire le rendez-vous tech, je pourrais influencer quelques dizaines de milliers de personnes qui écoutent l'émission.
Patrick, président.
Écoute, je pourrais vous expliquer de manière privilégiée pourquoi mon programme est idéal. Je pense que il faudrait que je réfléchisse à ce que je ferais, parce que c'est bien de critiquer tout le temps, mais qu'est-ce que je ferais, moi? Je crois que je ferais comme en Finlande, je commencerais à tester le revenu de base quelque part pour voir ce que ça donne. C'est une idée intéressante. Et peut-être une idée que vous n'attendiez pas à voir sortir de ma bouche. Donc, comme quoi, il y a peut-être un programme à faire. Mais bon, en parlant de gens qui sont présidents, Barack Obama a profité de ses derniers jours à la Maison Blanche pour gracier Chelsea Manning. Vous vous souvenez que c'était cette donneuse d'alerte, qui était à l'époque un donneur d'alerte, qui sera libérée finalement le 17 mai, au lieu d'être libérée en 2045. Au final, elle aura eu une sentence de 7 ans environ, au lieu des 35 ans qui avaient été décidés par le juge. Alors, il faut dire que pour ce type, ça a provoqué des réactions assez mixtes. Certains étaient évidemment très contents parce que les donneurs d'alerte sont importants pour la démocratie. Certains étaient assez déçu et même assez énervé parce que la manière dont les documents que Chelsea Manning avait révélés avaient été exploités, en fait, était beaucoup plus discutable que ce qu'on avait vu avec Snowden, par exemple. C'est-à-dire qu'elle avait livré tous les documents secrets à WikiLeaks, qui les avait publiés tels quels, sans aucune édition, sans aucune sélection. Et donc, ça avait révélé notamment les noms de personnes qui étaient dans des situations, d'agents américains qui étaient dans des situations dangereuses dans les pays où il y avait des opérations militaires. Et donc, évidemment, ça avait posé beaucoup de problèmes. On pense qu'il n'y a pas eu de conséquences graves, ça n'a pas provoqué de dommages de personnel, il n'y a pas eu de mort, mais il n'empêche, c'était quelque chose d'un petit peu plus irresponsable, en tout cas, que la manière dont l'a fait Snowden, qu'il a livré aux journalistes qui, eux, décidaient de ce qu'ils allaient publier. Mais par contre, c'est une sentence au final de 7 ans qui sera assez similaire à ce qu'ont purgé les autres donneurs d'alerte de ce type-là. Donc on avait peut-être eu une sentence exceptionnellement sévère dans le cas de Chelsea Manning. Elle devrait être libérée le 17 mai. On l'espère en tout cas. Enfin, moi, je pense que c'est juste, finalement, ce qui s'est passé. Là où c'est également assez intéressant, c'est que Julian Assange avait dit que si Chelsea Manning était libéré, il accepterait de se rendre aux États-Unis pour être jugé. Vous savez qu'il est sous le coup d'une extradition, notamment une extradition en Suède pour... alors, c'est un petit peu compliqué, c'est pas exactement pour viol, c'est acte sexuel... je sais plus exactement, mais c'est pas... Ouais. Clairement un viol. Il n'empêche, il est sous le coup d'une demande d'extradition. Il devrait aller en Suède et il devrait être envoyé aux États-Unis si tout se passe comme on l'imagine. Pour le moment, il est dans l'ambassade équatoriale de l'Équateur à Londres. Bref, tout ça pour dire que il y a tout un tas de conséquences j'ai oublié le terme quand on pardonne, de ce pardon, voilà, de Chelsea Manning, de cette grâce, merci beaucoup. Pour vous, bonne chose, mauvaise chose?
Alors déjà, bon, très surprenant pour Assange, qui ne fasse pas ce qu'il avait promis de faire.
Elle n'est pas encore libre, ouais, ça sera le 17 mai, d'accord. Il a dit, et en plus il avait dit si elle est libérée immédiatement... Je viens, et ça a pris quelques semaines. Donc, il pourrait s'en sortir. Ça serait quand même.
Voilà, il fallait lire les petites conditions en bas.
Avec l'étoile, astérisque, voilà. Le petit carré. Enfin, franchement, s'il est aux États-Unis, s'il va aux États-Unis, Assange, ça sera pas marrant pour lui. Hein. Donc, je comprends qu'il.
Oui, non, bien sûr. Mais évidemment, mais bon. Voilà. Après, sinon, dans l'ensemble, oui, c'est une bonne chose. C'était une des dernières décisions de l'administration Obama. Si ce n'est la dernière.
Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est
voilà,
sûr.
Voilà, c'était très bien. Dommage pour Snowden quand même, mais bon.
Dommage pour Snowden?
De pas avoir fait autre chose, enfin, de pas, du coup, en avoir, enfin,
peut-être que s'il était allé aux États-Unis, oui.
Voilà, non, désolé, dommage que voilà, Snowden n'ait pas non plus été pardonné ou n'ait pas eu. Voilà.
Mais il n'a pas été jugé, donc ouais. Je ne crois pas qu'on puisse pardonner, qu'on puisse gracier quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt alors qu'il a pas eu de procès. Ça se trouve, ça aurait été un meilleur calcul d'y aller, de se faire juger, de recevoir sa sentence et de se faire pardonner ensuite. Je ne pense pas que ça se serait passé comme ça.
Oui, hein, en même je temps, crois donc, qu'il peut lui. Je crois qu'il aurait pu lui donner l'immunité, enfin, slash le gracier en avance, blablabla, mais. Ouais. Mais bref, il avait expliqué pourquoi il l'avait pas fait.
D'accord.
J'ai plus en tête la raison, mais il l'avait expliqué. Bon, c'est juste dommage.
Oui, effectivement. Le NHTSA, NHTSA a clôturé. Pardon, quelqu'un a dit quelque chose.
Non, je disais pardon, la taille du
de l'acronyme.
Oui, de l'acronyme.
NHTSA, c'est National Highway. Security Administration, quelque chose, je sais plus. Mais c'est ceux qui ont enquêté sur, vous vous souvenez, l'accident mortel à bord d'une Tesla qui a eu lieu il y a quelques mois de ça. C'est le National Highway Traffic Safety Administration. Et donc, il y a eu un accident mortel, on en avait parlé il y a quelques mois, à bord d'une Tesla. Et ils ont rendu les conclusions de leur enquête, là aussi, extrêmement positive pour Tesla. Au final, non seulement ils ont conclu qu'il n'y avait pas de responsabilité de la voiture ou de la société dans ce crash malheureusement mortel lorsqu'il a eu lieu, ils ont conclu que le conducteur avait 7 secondes pendant lesquelles il aurait dû se rendre compte qu'il y avait un problème. Donc visiblement la responsabilité du conducteur était engagée. Et il n'avait pas réagi alors qu'il aurait dû. Et en plus de ça, extrêmement positif au niveau de la perception et des statistiques, ils ont signalé que depuis l'introduction du logiciel de autopilote, il y a eu une réduction du nombre d'accidents de 40%. Ce qui est hyper important, sans doute. Et enfin, encore une note positive, ils ont signalé que la manière dont la fonctionnalité était présentée était appropriée, c'était adapté, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas présenté la chose comme un autopilote qui va conduire à votre place, mais bien comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire, et que donc les conducteurs devraient comprendre de quoi il s'agit et bien l'utiliser. Donc, on est au final dans un rapport 100% positif pour Tesla. On ne met pas en doute l'intégrité de la NHTSA. On n'a vraiment pas de raison de se dire qu'ils ont présenté les choses comme ça pour faire plaisir à Tesla ou à quelqu'un d'autre. C'était hyper dangereux pour Tesla parce que s'il y avait eu un rapport négatif, ça aurait posé des problèmes graves pour leur développement et pour le développement des voitures autonomes. Là, on a quelque chose qui va sans doute même encourager le développement des voitures autonomes avec cette chute de 40% du nombre d'accidents depuis le déploiement de l'autopilote. Aounchi, j'imagine que ça sent bon pour les voitures autonomes avec un rapport comme celui-là.
Ah bah, ça sent très bon, ça sent, j'ai presque envie de dire, ça sent tout ce que nous, technophiles, on dit depuis quelques années, en disant que la voiture autonome, ça va être obligatoire et ça va diminuer le nombre d'accidents. Ça, juste, ça le confirme. Faut pas oublier que c'est 40% d'accidents en moins introduits impliquant des Tesla, mais 40% c'est énorme même sur un modèle. Imaginons le même système sur toutes les voitures.
Et en plus, les données que collecte Tesla maintenant que le système est dans la nature, dans des conditions réelles, permettent d'améliorer encore plus la fiabilité du truc. J'écoutais This Week in Tech tout à l'heure avec Jason Calacanis qui disait on a 40% d'accidents en moins, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont introduites à chaque, enfin tous les mois et une grosse mise à jour régulièrement. Le nombre d'accidents va encore chuter encore plus et à terme, effectivement, enfin, je dirais que, comme tu le disais, Aounchi, ça confirme ce qu'on disait et surtout, ça donne au grand public, aux journalistes, à tout le monde, une figure d'autorité qui donne un chiffre qui confirme ce que nous on disait en tant que technophiles qui sont peut-être parfois un petit peu trop enthousiastes par rapport à ce genre de choses régulières, enfin dans et que le grand public va pas forcément nous croire sur tout quoi. Donc là c'est une voix neutre indépendante et à laquelle ils peuvent faire confiance.
Et autre chose qui me fait penser que ce fichier est extrêmement intéressant, c'est que c'est moins 40% en n'ayant qu'une voiture autonome. Donc, en en ayant plusieurs, les autres voitures ne sont pas autonomes, sont avec des conducteurs, et on arrive quand même à baisser de 40% le nombre d'accidents.
Oui, donc si toutes les voitures sont autonomes, enfin, dans le cas où on a une voiture autonome, une voiture pas autonome, ça chute de 40%. Imaginons si les deux sont autonomes, bah ça y est, il y a plus d'accidents, quoi. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu idéal, mais c'est vrai qu'on pourrait y arriver. Bon, on continue avec les bonnes nouvelles. Greenpeace a remis son rapport, et on a plein de rapports aujourd'hui, hein, sur l'énergie propre avec, tenez-vous bien, les plus grosses sociétés du monde qui ont toutes, une bonne partie qui ont qui sont notées
des A.
C'est Apple, Facebook, Google sont notés A pour leur utilisation d'énergie renouvelable. Les sociétés chinoises sont celles qui sont certaines d'entre elles sont le moins bien notées. Baidu et Tencent ont des F, mais on est loin de l'époque où on avait Greenpeace qui faisait des rapports alarmants sur le recyclage. Alors peut-être que le recyclage reste un problème, hein. Là on parle que d'énergie, mais avec ces sociétés-là, enfin, c'est super positif. Et je pense, il y a des gens qui disent, voilà, c'est du greenwashing, c'est du marketing, machin. Moi, je pense pas. Moi, je pense que, enfin, les deux se mélangent, hein, évidemment, ça fait un bon message à transmettre. Mais il n'empêche, si c'est un bon message, c'est bien. Apple, Facebook, Google, tous des A, ça vous évoque quelque chose ou on continue à avancer?
Ce que tu disais sur le greenwashing, de toute façon, oui, et alors, quoi. Enfin, je préfère qu'ils fassent du greenwashing que, investir dans autre chose. Même si c'est derrière, c'est pour du marketing, c'est évident que c'est probablement pour du marketing et pas que par bonté de cœur envers la planète. Puis c'est aussi pour des économies d'énergie, en fait, tout simplement, parce que
plus t'es sur des énergies renouvelables, moins t'as besoin d'acheter de pétrole, quoi, et d'électricité.
Et moins t'es dépendant aussi d'autres entreprises, etc., sur le pétrole, justement, ou carrément d'autres pays, si on peut parler du gaz en Europe, etc.
Ou du nucléaire, de l'énergie.
Tu deviens indépendant, il y a tout à gagner, quoi. Je pense qu'en plus pour des sociétés comme Apple, ça permet de passer un message moi, ce que j'avais pensé déjà, c'était à l'époque de la présentation de l'iPhone SE. C'est que ça permet c'est une plus-value en fait que tu peux pas quantifier sur un produit que tu vends. C'est-à-dire quelle est la valeur de la vie privée et quelle est la valeur de l'environnement sur le prix d'un téléphone. Tu peux pas le quantifier aussi facilement que le prix d'un écran ou d'un processeur à la fabrication.
Ouais, donc c'est du coup, que d'autres ont plus de mal à avoir, quoi.
Voilà, et c'est un truc du coup, tu peux te dire, je vais payer mon iPhone, je le paye plus cher que les autres, oui, peut-être, mais par contre, moi, tu vois, mon iPhone, il est plus propre, quoi, en gros.
Moi, j'aide à sauver la planète, quoi.
Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et donc, j'accepte de payer plus cher, quoi. C'est un peu comme quand tu payes plus cher pour du bio, en fait. Sinon, sur la liste, pour sortir d'Apple et sur la liste en général, je remarque que Microsoft a un B et surtout que Oracle et Amazon se tapent des C et des D, donc ça c'est pas top top quand même.
Surtout pour Amazon qui a énormément de serveurs, quoi.
Donc c'est vraiment pas bon du tout en fait pour Amazon. Enfin ce serait presque le pire dans la liste. En dehors des Chinois, ce serait le pire dans la liste parce que par l'influence que Amazon, les serveurs d'Amazon, c'est des serveurs que beaucoup de sociétés utilisent, quoi. Par exemple Dropbox, il me semble, utilise Amazon.
Ouais, donc ils sont assez Amazon, ce qui est pas idéal. Hein, c'est Amazon Web Services, AWS. Est-ce que vous avez vu passer sur vos flux de réseaux sociaux ces images de photos faites avec un filtre qui animéifie les photos des gens? C'est l'app Meitu. Je suis sûr que vous l'avez vu passer ces derniers jours. Ils sont partout.
J'ai vu Emmanuel Valls, pardon, en version Meitu.
Oui, mais on en avait...
je l'ai vu passer. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à en dire sur... application à la mode.
Ce qu'il y a de plus à en dire, c'est que on a vu à la suite de la popularité de cette app vraiment très virale, le rapport sur les permissions que demande l'app. Et il se trouve qu'il demande des permissions absolument sans rapport avec son utilisation. Et ça m'a fait rire parce que il y a eu énormément d'articles sur le sujet selon lesquels voilà, regardez, voilà les permissions que demande l'application en question, et ce sont des permissions genre elle demande accès à votre localisation tout le temps, à votre téléphone, enfin votre IMEI, donc le numéro unique de votre téléphone. Il y a toutes ces informations qui sont demandées par l'app et les gens se sont un petit peu mis à paniquer. Et moi, ça m'a fait rire parce qu'il y a tellement d'applications autres que cette petite app ridicule qui le fait. Ils ont publié une explication de la chose, mais tout. Et leur explication, c'est qu'ils sont en fait, il y a une partie qui est due au fait que, finalement, c'est une app qui va vous traquer pour faire de la pub et pour vendre votre profil à d'autres sociétés qui vont vous faire de la pub. Donc, ils vous traquent pour avoir toutes ces informations, pour pouvoir construire le profil. Et puis, c'est une société chinoise qui est tenue par la loi chinoise d'avoir un certain nombre d'informations sur ses utilisateurs et de les stocker sur des serveurs en Chine. Donc, il y a ces deux éléments, mais je pense que 80% des gens qui s'émeuvent du nombre de permissions que demande Meitu ne se rendent pas compte du nombre de permissions que demandent 80% de leurs apps, quoi. C'est pas un truc qui est unique à Meitu, c'est un truc qui est comme ça pour énormément de d'applications et dont les gens se foutent, quoi. Donc, je pense que maintenant, sur Android, c'est aussi le cas, et sur iOS, on peut aller voir les permissions que demandent les différentes apps qui sont installées sur votre téléphone. Allez y jeter un coup d'œil. Franchement, je pense que vous serez surpris et je pense que vous allez supprimer les accès à certains éléments de votre téléphone d'un certain nombre d'apps. Donc,
un des gros problèmes, enfin, c'est pas totalement la faute des applications. Le problème aussi, enfin, c'est pas que toutes les applications sont des applications malfaisantes ou quoi. C'est aussi le problème du système d'autorisation et de nos systèmes en fait, d'Android et d'iOS. Le fait que, par exemple, il y a plein d'applications qui demandent de pouvoir lire les SMS en fait, du téléphone, pour notamment Facebook, par exemple, pour l'authentification à deux facteurs. Plutôt que d'avoir à envoyer un SMS sur le téléphone et de demander à l'utilisateur de retaper le code dans l'application, c'est l'application elle-même qui va demander l'autorisation d'aller lire les SMS, en fait, et qui va aller piocher dedans pour aller choper le code et va éviter comme ça de faire un copier-coller à l'utilisateur, en fait. Et du coup, elle demande l'autorisation de lire les SMS. Et plutôt que de demander l'autorisation de lire tous les SMS du téléphone, il faudrait qu'elle puisse demander, par exemple, de lire que le SMS en question, en fait. Ou le SMS venant du numéro.
C'est compliqué, ça.
Oui,
faudrait
bien sûr.
Lire les SMS qui affichent les numéros. Tu sais bien que ces services qui marchent partout dans le monde ont des numéros différents à chaque fois. Ou alors de ne lire que les SMS où il y a le texte Facebook machin. Mais à ce moment, il faut qu'ils lisent tous les SMS pour savoir si.
Non, mais bien sûr. Je dis pas que j'ai la solution évidente, mais je veux dire, ça vient de là aussi le souci. Des fois, ils ont besoin d'un petit truc qui est englobé dans le droit, qui est un droit beaucoup plus général, et ils sont obligés de demander le droit pour tout le truc. Même si la société derrière a pas forcément envie de connaître le détail de notre historique de numéro de téléphone ou quoi.
Moi, je crois pas qu'ils vont voler vos données, etc. Mais c'est effectivement pour de la pub, tout simplement. Et cette app débile. Je crois que d'une manière générale, plutôt que de voir les super photos de shoujo manga là, de shoujo animé, où on se dit oh c'est marrant, je vais me le faire moi aussi, évitez d'installer toutes les apps débiles. Et quand vous voyez qu'ils vous demandent l'autorisation pour ça, vous refusez, vous la désinstallez. Et puis voilà, c'est à mon sens. Ce genre de truc, on n'en a pas vraiment besoin. C'est un petit peu plus gênant. Enfin, bref, on pourrait faire tout un épisode sur les choses que demandent les différentes applications comme autorisation, quoi. Vous pouvez m'interrompre hein, quand vous voulez, Aounchi aussi, si t'as des choses à ajouter. Mais on va enchaîner avec le bilan sur la santé d'Internet que veut établir Mozilla chaque année. Et je pense que c'est une assez bonne chose parce qu'on a besoin justement de ces indicateurs simples pour juger de l'état de notre réseau préféré. Donc Mozilla a lancé cette initiative en open source, évidemment, selon la tradition Mozilla. et ils vont en fait couvrir un certain nombre de sujets comme l'innovation ouverte, l'inclusion numérique, la décentralisation, la vie privée et la sécurité et l'éducation à Internet. Alors, ça va nous permettre d'avoir un baromètre pour ces différents éléments qui nous permettront de juger des choses de manière... Parce que je me méfie toujours des impressions. Et là, on a un acteur qui est légitime sur le net et dans la communauté des gens qui ont créé ce réseau. On parle d'ouverture, d'open source et de décentralisation. Et donc, on a des gens qui sont légitimes dans ce domaine, qui vont pouvoir nous dire où on en est. Et je pense que c'est une très bonne chose, quoi. Le rapport arrivera à la fin de l'année, hein. Mais donc là, on a juste l'annonce du fait qu'ils vont commencer à y travailler. Et on aura la publication du rapport entre octobre et décembre de cette année, a priori. Ils vont le construire pendant l'année entière, évidemment. Bouygues Télécom a annoncé...
Moi, je dis, l'idée de Mozilla, voilà une idée qui est bonne.
Pour moi, contrairement à toutes les autres idées de Mozilla, c'est ça que tu veux dire?
Non, mais je trouve ça très bien. Ça, c'est un peu comme le truc de Greenpeace qu'on parlait il y a deux minutes.
Ouais, sur, le rapport sur l'énergie renouvelable.
Et ben, je trouve ça très bien. Le seul regret, c'est que dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'ait fait plus tôt.
Ouais. Non, mais on, c'est vrai.
Très, très bien.
Et à vrai dire, peut-être que ce genre de rapport existe ailleurs, hein, c'est possible, mais le fait que ça soit Mozilla, qui est une vraie autorité, qui est une vraie référence dans l'industrie, va forcément donner plus de poids à ce rapport. Donc on est d'accord, c'est une très bonne chose. Bouygues Télécom lance la 4G Box. Alors qu'est-ce que c'est que la 4G Box ? C'est un moyen de connecter les zones qui sont pas densément peuplées et dans lesquelles il n'y a pas de connexion très haut débit. Et ils ont en fait une boîte dans laquelle il y a, on connaît ces systèmes, hein, une carte SIM 4G. Et vous vous connectez à votre réseau 4G local, en imaginant que vous avez la 4G, même si vous n'avez pas le très haut débit. Et ensuite, ça crée un réseau Wi-Fi ou Ethernet sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Donc, c'est une connexion à la maison, mais avec la 4G. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite de quantité de données. Contrairement à nos forfaits mobiles, on n'a pas de limite de quantité de données. Donc, c'est la clé pour faire en sorte que cette connexion 4G soit utilisable de la même manière qu'une connexion filaire. Alors, je ne sais pas exactement comment ils font pour justifier le fait qu'il y a des limites sur la connexion mobile et pas sur celle-ci, parce qu'il y a des arguments divers commerciaux et pas que sur le fait que ça ferait des engorgements, mais peut-être qu'ils se disent, bah oui, un par foyer, et puis on a plus de place, donc c'est peut-être plus gérable. Mais voilà, donc on a cette 4G box. Alors, c'est en prototype encore, enfin, pas au prototype, mais en pilote, on n'a que quelques zones, quelques agglomérations qui sont gérées. Mais si ça se passe bien, ça ira plus tard. Ça pourra permettre de connecter des zones qui n'étaient pas encore connectées. Et c'est là encore une super bonne nouvelle, quoi. Aounchik, toi qui travailles dans l'industrie, tu voulais nous en dire deux mots ? Non ?
Oui. Oui, je peux en dire deux mots. Entre parenthèses, je travaille chez Bouygues Télécom, comme ça je fais, comme ça tout le monde est au courant. Mais je peux en parler extrêmement librement. Je suis pas partie de la division qui a sorti ce produit. Donc tout ce que je vais dire, c'est Aounchi personnel, c'est pas la société. Je trouve ça très bien. Effectivement, c'est bien que il y ait un opérateur qui arrête de faire le fair use sur la 4G. Ça débloque beaucoup de choses. À titre personnel, pour pouvoir utiliser pas forcément de manière très légale, mais du moins la 4G pour ma connexion internet principale, c'est juste le jour ou la nuit. Si vous pouvez le faire, allez-y. Vous allez avoir
par rapport à de la DSL, mais... tu veux dire?
Ah ouais. Moi, j'ai une DSL, mais j'ai un DSL 5 mégas quand j'ouvre les fenêtres, que je pousse les paquets dans la box. Donc, quand on passe en 4G, ne serait-ce que doubler sa bande passante, mais on redécouvre Internet. C'est juste impressionnant. Donc, si vous pouvez le faire, allez-y. Comment est-ce qu'ils font pour te poser une question? Comment est-ce qu'ils font pour savoir si on peut machin? Comment
non, je veux dire parce que
faire...
les justifications pour le fair use, c'est que on peut pas l'utiliser à la maison parce que ça saturerait les réseaux. Alors, je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est du commercial, mais là, il y a pas de fair use du tout. Comment est-ce qu'il le justifie par rapport à la saturation des réseaux? Ça, je sais pas.
La zone géographique. En fait, si tu regardes bien, l'offre est limitée aux zones dites peu denses. Dans les zones peu denses, t'as peu de personnes. Ils vont pas, pour le moment, elle n'est pas ouverte en région parisienne.
Oui, d'accord. Donc c'est pas, ça risque pas, ça risque de pas arriver en région parisienne. Oui, d'accord.
Voilà.
Ou dans les grandes agglomérations, quoi.
C'est mon bémol que je trouve, parce que des connexions qui marchent pas très bien, il y en a aussi en région parisienne ou même dans tous les gros centres. Il suffit qu'on soit trop loin du central pour avoir une connexion correcte et la fibre est pas encore passée. C'est le petit bémol où je fais les connexions qui vont pas très vite. Malheureusement, il n'y a pas que dans les zones peu denses. Et après, faut faire quelque chose aussi pour les zones peu denses. Parce que c'est pas forcément là, ils vont peut-être avoir la fibre, mais peut-être d'ici 3-4 ans, là où on peut, nous, en zone dense, l'avoir un petit peu avant.
Là où je trouve ça très intéressant, en dehors de, évidemment, avoir accès à la 4G plus que de la DSL pour en download, ça multiplie les débits. Là où ça multiplie encore plus les débits, c'est sur le remontant, en fait, parce qu'un des gros soucis de la DSL, c'est son débit remontant qui est souvent limité à environ 1 mégabit seconde.
Ouais, vraiment très très faible. Là, on est
là en 4G, on est entre 25 et 38 entre 25 et 38, ils annoncent pour la box. Donc c'est 25 à 38 fois la DSL en remontant avec un calcul savant.
C'est vrai que ça peut permettre d'utiliser. On pense pas que à des trucs genre fichier torrent machin, mais tout ce qui est Dropbox, ce genre de. Oui, c'est hyper.
Moi tous les jours, je fais du télétravail pour mon boulot et enfin à chaque fois que j'upload une vidéo, une photo ou quoi que ce soit. Je suis bien content de pouvoir uploader rapidement sans attendre, et puis la synchro de Google Drive qui est super rapide, voilà. C'est donc sûr. Pour le développement du télétravail, je trouve ça intéressant, quoi.
Et effectivement, moi qui suis devenu un adepte total du télétravail, et en particulier du télétravail à la campagne, je ne vais pas te dire le contraire. C'est sûr que pour quelqu'un qui peut télétravailler, aller justement dans ces zones peu denses et être au calme avec tu travailles toute la journée et puis tu sors faire une balade dans la forêt, c'est quand même autre chose, quoi.
Par contre, un petit détail qui va pas en être un, mais regardez bien les conditions générales d'utilisation. Ouais. Il me semble que les SIM sont localisées. Ça veut dire que la carte SIM ne peut s'enregistrer qu'à un certain nombre d'antennes autour de l'adresse que vous avez renseignée.
Ah, d'accord.
Pour éviter de glisser la télé.
C'est-à-dire que dans l'absolu, je peux pas commander une carte SIM chez mes parents en province et la porter en Île-de-France.
D'accord.
Et avoir illimité dans ton smartphone.
Donc, d'accord. Faites attention, la limiter dans les smartphones.
Attention aux magouilles, quoi.
Le roaming, à mon avis, il n'y en a pas non plus. Donc,
c'est sûr.
Oui, mais. Non, oui.
C'est l'utilisation, effectivement. Je pense que là, on est dans un truc cohérent avec ce pourquoi ils vous la vendent. Donc, voilà. Très très bien, donc belle initiative, et je suis sûr que d'autres vont suivre très très vite, parce que c'est une belle opportunité pour les gens qui ont besoin de ce type de connexion.
Et je te recoupe, elle n'est que Internet. Cette box n'est que Internet.
Ah oui, ça fait pas la télé, les téléphones, machin, tout ça, bien sûr. Mais enfin, en même temps, aujourd'hui, que Internet, ça veut aussi dire Netflix, Molotov, FaceTime, Allo, enfin Skype, etc. Donc, mais c'est vrai, c'est bon de le préciser. Kassim, je me retourne vers toi parce que Microsoft a annoncé qu'il y aurait un mode jeu dans la prochaine mise à jour de Windows, qui est la Creators Update, mais par contre, ils ont retiré la fonction My People, qui devrait être réintroduite dans une autre mise à jour plus tard dans l'année. Elle n'était visiblement pas prête, et pour compenser, ils ont mis un magasin d'e-books. Bon, ça, à la limite, c'est un détail, mais ok, My People, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être très tristes, mais ce mode jeu, c'est quoi? Je suis intrigué.
Ah, c'est un truc très super intéressant, génial. Non, alors c'est ils ont présenté plein de nouveautés pour les joueurs d'une manière générale, pour le streaming et tout ça, parce qu'en fait, donc la partie c'est la Creators Update, donc c'est la mise à jour pour les créatifs. Ils incluent les joueurs dedans pour tout ce qui est Twitch, en fait, le streaming de jeux vidéo très à la mode en ce moment. Et un des segments des mises à jour, donc c'est le mode jeu, c'est la possibilité, en fait, pour les développeurs d'avoir accès à une sorte de mode optimisé. En fait, il y a Windows 10 qui va détecter les jeux vidéo et qui va en fait les mettre en priorité, en fait, en quelque sorte, et permettre de faire tourner avec des meilleures performances à machine équivalente. C'est tout un pan vraiment de Windows 10 qui va être mis à jour, et c'est pas que pour les jeux vidéo. En plus, il va aussi avoir des options qui vont permettre de gérer. On va pouvoir passer facilement l'ordinateur, par exemple, en mode de performance ou en mode batterie pour économiser de la batterie. Ils vont vraiment mieux gérer comme ça l'utilisation des processus, c'est la priorité. Alors pour
mais
joueurs,
alors est-ce que oui, pour les joueurs, est-ce que ça veut dire que quand tu es en mode jeu, ton jeu marche bien, mais ton navigateur qui tourne en tâche de fond ne va plus jouer la musique que tu avais sur Spotify, ou je sais pas, tu vois, est-ce que ça met le reste en pause, quoi?
On manque encore de détails, ils vont le préciser en fait bientôt pour les développeurs exactement, mais à mon avis non, ça mettra pas en pause, ça va juste mettre moins de puissance, quelque chose comme de la lecture audio qui est en tâche de fond, ils vont le laisser, mais par contre ils vont pas forcément avoir besoin d'afficher en direct les 30 000 GIFs qui étaient restés sur la page Chrome qui était en arrière-plan, tu vois. Mais par contre, ça va permettre de rapprocher les performances.
Je suis surpris que ça le faisait pas déjà, en fait. Mais oui, pardon.
Non, mais ça le faisait déjà. Oui, ça le faisait déjà dans une certaine mesure, en fait. Surtout quand tu passes en plein écran. C'est pour ça que quand tu passes en plein écran et que tu fais Alt-Tab entre un jeu en plein écran et des applications, Windows met un peu de temps à te réafficher ton bureau parce qu'il y avait un mode exclusif des jeux vidéo. Mais ils vont un peu améliorer, ce qui va permettre de rapprocher en fait les jeux vidéo. Surtout, le but, c'est de rapprocher le jeu vidéo sur PC. Du jeu vidéo sur console en termes d'optimisation, parce que souvent c'était l'argument du jeu sur console, oui les consoles sont moins puissantes que nos PC, mais par contre les jeux sont mieux optimisés parce que les développeurs savent précisément sur quelle console ça va tourner et donc peuvent adapter précisément le jeu pour la console en particulier, alors que les PC c'est plein de matériel différent, donc c'est plus difficile de s'adapter.
Donc encore une victoire pour notre PC Master Race préféré, ça veut dire.
Et à mon avis, ce mode jeu-là, en fait, il préfigure de quelque chose qui sera très important pour Project Scorpio, qui est la prochaine console, ou plutôt le prochain produit Xbox que Microsoft présentera à l'E3 et qui sortira à la fin de l'année.
Et donc tu laisses entendre qu'il ne s'agirait peut-être pas exactement d'une console de salon sous la forme qu'on connaît aujourd'hui.
Enfin, il y a pas mal de, il y a pas mal de journalistes. Les journalistes jeux vidéo pensent que c'est une console de jeu. Et les journalistes plus Microsoft ou Windows, du monde Windows, Surface, etc., pensent que ça va peut-être plutôt se rapprocher d'un PC où ils vont essayer de faire une sorte d'hybride entre PC et console. Je pense que pour le grand public.
La Switch, page Microsoft.
Non, mais c'est un peu ça. Bon, de loin, je pense que ça ressemblera vraiment à une console parce qu'ils peuvent pas se permettre. Enfin, faut que ce soit simple d'accès, etc. Enfin, tu sais, ça mieux que moi du marché du jeu vidéo. Mais je pense que la Scorpio va énormément se rapprocher du PC, en fait, à mon avis.
D'accord, intéressant, très bien. Écoute, merci beaucoup. On va finir avec deux petites news rapides. Une que sur laquelle on va pas vraiment passer de temps parce qu'on a beaucoup discuté et ça a provoqué des conversations interminables dans les commentaires de l'émission. Apple et Foxconn seraient visiblement prêts à créer une chaîne de production aux États-Unis. Alors, on en a, comme je le disais, beaucoup parlé et il y a beaucoup de gens qui ont débattu de la possibilité, de la faisabilité d'une telle chose. Visiblement, c'est pas les seuls. J'ai pris cet exemple, mais suite encore une fois à l'élection de Donald Trump, c'est ça. Il y a plusieurs cas de grosses sociétés qui sont en train de discuter très sérieusement et d'étudier en tout cas la faisabilité très sérieusement de ramener des usines de production aux États-Unis. Donc c'est évidemment en réaction aux mesures que voudrait prendre l'administration Trump pour plus taxer ce qui est produit ailleurs, etc. Bref, il y a tout un aspect financier là-dedans. Mais bon, cette idée qui paraissait absolument saugrenue il y a encore 6 mois, aujourd'hui est en train d'être étudiée par. On verra. C'est pas encore fait, mais voilà, on a un peu les.
Même c'est pas forcément du tout sûr que ce sera fait. C'est à mon avis l'idée, c'est plutôt de. Si jamais il prend vraiment l'action, en gros, si vraiment il tient sa promesse par hasard, ce serait bien d'être prêt, quoi.
D'être prêt, oui, tout à fait. Et enfin, une dernière news qui va nous faire un petit peu sourire, c'est le président d'Airbus, qui s'appelle Tom Enders, qui a dit que la société Airbus espérait pouvoir faire tester des prototypes, alors attendez, hein, des prototypes de voitures volantes autonomes d'ici la fin 2017. Oui, vous m'avez bien entendu, on n'avait peut-être pas nos voitures volantes en l'an 2000, mais on aura peut-être des voitures volantes autonomes en 2017, qui seraient testées par Airbus. Alors Airbus, c'est pas des rigolos, hein. Ils parlent d'un truc comme ça, il faut le prendre au sérieux. Je pense que quand ils disent voitures volantes, à mon sens, c'est peut-être pas exactement des voitures volantes au sens où on entend voitures qui volent. C'est peut-être des trucs Marté. Genre... Voilà, c'est ça.
Non,
c'est
des pas... gros drones, des drones, des énormes drones autonomes.
C'est, bah,
et je pense que le jour où on veut
des...
un véhicule pour se déplacer, il va, surtout qu'il va voler, il faut qu'il soit autonome. Enfin, piloter un avion,
ouais,
ou un
c'est un peu plus compliqué.
C'est pas comme conduire une voiture.
C'est ça.
C'est... Voilà.
Et on a vu que les voitures autonomes étaient relativement sûres dans leur utilisation. Je pense que une on se dit, oui, s'il y a un accident sur un truc volant, c'est encore pire, mais je pense que c'est plus facile de faire voler quelque chose de manière autonome que de conduire quelque chose, parce que une voiture, c'est hyper compliqué à conduire. Il faut que tu vois où sont les autres voitures, les passants, la route, les machins.
Surtout,
là, t'es dans les airs, bon.
En cas de personne qui arrive de frontale, il y a plus d'échappatoires dans les airs que sur Terre.
Non, et puis en plus...
Sur Terre, il y a droite,
jamais...
gauche, reculer, avancer.
Oui, tu peux pas aller sur en haut ou en bas. Mais, voilà, non, mais je veux ça. Dire, il n'y a même pas d'arrivée en frontale. Tu peux repérer les autres machins volants hyper facilement. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc, je pense que s'ils sont tous autonomes, tu peux te parler très facilement. Et puis quand on dit voiture, effectivement, on dit drone. Ça pourrait être marrant d'avoir genre 1000 drones minuscules qui tirent le truc avec des petits câbles, tu vois. Mais je pense qu'on parle plus de trucs genre... Enfin, ça va pas avoir des réacteurs, le truc. Ça sera genre des sortes d'hélicoptères, j'imagine. Donc, je sais pas.
Mais alors, en fait, ce que je comprends bien, HoloLens...
On n'a pas les détails, non, mais...
HoloLens, Google Glass, tout ça, t'y crois pas du tout. Par contre, t'arrives à parler quand même de drones volants, de voitures volantes dans le monde des tech.
Je dirais que je veux bien croire qu'Airbus testera des appareils autonomes volants qui auront un ou deux passagers ou quatre passagers, tu vois. Le fait de l'appeler une voiture autonome volante, à mon avis, c'est un petit peu un coup de pub. Je pense pas du tout que ça ressemblera à une voiture, mais alors du tout, quoi. C'est genre petit hélicoptère volant. Ok, à la limite, pourquoi pas. Tester en autonome. Oui, on est en train de tester des voitures autonomes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tester. Enfin, on est en train de tester des voitures autonomes, des drones partout. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tester un mini hélico, surtout quand on s'appelle Airbus, tu vois.
Oui, oui, tout à fait.
D'accord.
J'ai senti. Oui, oui. Les drones autonomes aujourd'hui. Donc, il suffit de les faire un peu plus gros et mettre des fous qui vont être dedans, quoi. C'est tout.
Exactement, exactement. Bon. Donc, voilà, c'était la dernière news de l'épisode pour nous faire sourire un petit peu. Je vois que j'ai accompli ma mission. J'en suis donc extrêmement satisfait.
Hashtag malestv un petit peu, quand même, la news. Parce que, enfin, bon, c'était par rapport à un reportage TF1, mais fallait le voir.
Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors je regarde pas TF1, mais il se trouve que c'était pendant les vacances de Noël quand j'étais dans ma famille, donc c'est le présentateur de TF1 en fait qui a présenté cette idée en fait de drone volant en pseudo-réalité augmentée sur le plateau, et il est monté dans un drone volant sur le plateau du journal de TF1 dans une 3D toute cheap, toute pourrie, et ça a fait c'était très ridicule.
Ah oui, effectivement, je suis en train de regarder le lien que tu m'as donné. Il porte bien son, enfin, il mérite bien d'être sur le compte Malaise TV, effectivement. Ouh là là. Ouf, il y a des fois, on ferait bien de s'abstenir quand même. Bon, bah voilà, écoutez, je voulais finir sur un sourire, et toi, tu nous obliges à finir sur un sentiment négatif.
Non,
on va se moquer des gens, Kassim, je suis très déçu, très déçu de ce que tu nous as fait faire. Exactement, mais tu sais quoi, on va quand même réussir à revenir vers la joie et la bonne humeur, puisqu'on va vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si on veut avoir un petit peu plus de votre salaire. Sagesse, à commencer par Kassim, bien sûr.
Ah bah bien sûr qu'on commence ensemble. Non mais on peut me retrouver sur Twitter @notcassim, NOTCA2SIM. Sinon, on me retrouve aussi sur numerama.com et frandroid.com, mais surtout, on me retrouve dans Lifestyle, dans le podcast sur Microsoft, une fois toutes les deux semaines. Le jeudi soir, on enregistre en live, et ce jeudi, on enregistre l'épisode... ce mercredi, je vais y arriver, t'as bien, c'est le jeudi. Ce mercredi 25 janvier, on enregistre en live l'épisode 100 à 21h.
Magnifique. Et tu redis l'adresse pour regarder le live.
Alors, ce sera sur lifetail.fr. Il y a le lien. Je pense qu'on mettra en place une page pour être obligé de tomber dessus, quoi.
Magnifique.
Mais ce sera sur lifetail.fr.
Donc, mercredi à 9h sur lifetail.fr.
Épisode 100. Et c'est tellement mieux que l'épisode 200, par exemple. Tu vois.
Écoute, c'est vrai que moi, il y a une époque, j'avais aussi un épisode 100 et j'en garde un souvenir mémorable. bien plus ému que l'épisode 200, évidemment. Le 200, là, c'est terminé. Tu vois, on est déjà vieux. On a trop l'habitude. Bon, Aounchi, est-ce que toi, tu as une présence sur Internet quelque part?
Oui, quelque part dans les fins fonds d'un petit réseau social qui s'appelle Twitter. Je sais pas s'il existe encore. Donc c'est @aounchi_cheva. Donc
je te laisse mettre le lien. Oui, dans les notes de l'émission, ça marche.
Voilà, vous pourrez me joindre et communiquer avec moi sans forcément avoir les bruits d'enfants ou de personnes derrière.
Les enfants qui pleurent ne sont pas encore transmis par Twitter. C'est peut-être une bonne chose, effectivement. Bon, merci d'avoir été là en tout cas, Aounchi. Ça fait toujours très plaisir de t'avoir et ça fait toujours très plaisir d'avoir les patriotes animateurs d'un jour. On le fait, deux, trois fois par an. Ça nous fait toujours, comme je le disais, plaisir d'avoir la communauté qui participe et qui s'implique dans la production et la gestion de l'émission. Et si vous aussi, vous voulez venir contribuer au succès de cette émission, vous pouvez par exemple laisser des commentaires sur iTunes. On en a eu, je vais vous en lire deux. Très rapidement, celui de... j'évoquais, This Week in Tech tout à l'heure. Vous savez quoi? Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé, mais notamment Jim Profit, qui nous avait fait un commentaire il y a bien longtemps, qui disait une copie de Léo Laporte, mais au moins il reconnaît avoir pris pour inspiration le maître du podcast. Ceux qui connaissent Léo Laporte s'en souviendront. avoir de temps dans le temps... il ne peut pas suivre l'actu, mais... Mise à jour 2017, il a son style clairement maintenant. J'adore suivre chacun des épisodes, toujours de bonnes analyses. Merci à toi Jim Profit qui a donc mis à jour le commentaire pour dire que avec l'expérience était venu encore plus de qualité. Je suis très ému et très touché que tu me compares à Léo Laporte. Et Gabe06 nous dit: au top depuis l'origine, fan de tech de tous les pays. Si vous êtes un geek, comment n'avez-vous pas entendu parler de ce podcast? Que dis-je? De ce nouveau porte-étendard du financement participatif? Non seulement ce podcast gratuit, entre guillemets, parvient à être utile, pertinent, fouillé et drôle grâce à son animateur et ses invités, mais en plus, pour le prix d'un café par mois, au minimum si l'on se sent suffisamment engagé, il permet d'avoir une vision sur la tech et le monde connecté sans suspicion de déformation par les placements produits et autres mécènes plus ou moins officiels. Soutenons ce type de médias. Et merci Patrick pour ton engagement, ton professionnalisme et ta bonne humeur communicative. Eh bien moi je dis merci à toi Gabe06 pour cette sorte de je sais pas même comment l'appeler, c'est un poème fleuri que tu viens dire pour décrire le rendez-vous tech, et j'en suis extrêmement fier parce que c'est vrai que c'est un des aspects de l'émission qui m'importe énormément, cet aspect financé par les auditeurs. Donc on vous l'a dit déjà dans l'émission, si vous voulez vous aussi vous engager de cette manière, ou si tout simplement l'émission vous plaît et vous vous dites que ça vaut bien le prix d'un café, vous pouvez aller sur patreon.com, ça prend 2 minutes, et vous serez fiers de soutenir cette émission et de participer au fait qu'elle puisse exister. Pour moi, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, c'est NotePatrick dans les deux cas, et vous pouvez venir commenter cette émission et en découvrir d'autres sur frenchspin.fr, et il y a même des émissions en anglais, dont une émission politique internationale sur frenchspin.com qui a aussi une certaine valeur. Je pense que ça pourrait vous intéresser si vous êtes fan de podcast. Merci en tout cas à vous tous de nous écouter, que vous soyez patriote ou pas, vous faites partie de la communauté du Rendez-vous Tech et on vous aime tous autant les uns que les autres. Et moi je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode qui sera encore une fois, j'espère, sympathique et qui, comment disait Gabe06, fera preuve d'une bonne humeur communicative. Je vous fais des bises à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.